Vous écoutez France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ce sont deux groupes de 28 étudiants entre 18 et 20 ans qui suivent un cours de communication proposé le vendredi après-midi à l'IUT de Bobigny. Ils sont en première année de gestion des entreprises et administration. Ils se préparent à travailler dans les différents champs de la gestion des entreprises, à aborder des aspects logistiques, commerciaux, juridiques, fiscaux, financiers et comptables de l'entreprise, ou bien ils travailleront dans les relations humaines, la communication interne. Lors de deux séances de ce cours, ils se sont prêtés avec Pauline Mocor à un exercice un peu particulier entre le récit de soi et l'écriture radiophonique, entre l'exposition et l'exposé. Une première fois, ils ont écrit une histoire. Puis certains ont accepté de la raconter devant tout le monde. Parfois ils l'ont lue, parfois ils l'ont juste dite. Parfois un peu les deux. Et c'est venu, comme ça, des histoires de passage, de transition, de deuil de l'enfance ou de l'adolescence, d'un moment qu'ils n'arrivent pas à oublier mais qu'il faudra dépasser pour bien grandir. Des histoires qui leur sont arrivées ces dernières années, avant de basculer dans l'âge adulte ou pas. Et qui sont sorties, comme ça, de manière inopinée, sans crier gare. Chacune raconte aussi quelque chose sur la difficulté d'exprimer ses sentiments, de dire sa peine, de parler tout simplement. Ces jeunes étudiants viennent de l'Île-Saint-Denis, Aubervilliers, Gennevilliers, Bobigny, La Courneuve, Clichy-sous-Bois. Ce sont donc des histoires aussi sur la vie de nos cités, comme on l'entend tout de suite dans Les Pieds sur Terre, sur France Culture, par Pauline Mocor.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Donc, j'ai 19 ans, je vis à l'Île-Saint-Denis et je vais vous raconter la mort d'un proche que j'ai eu il n'y a pas longtemps. C'était le 9 mars 2017. J'étais dans mon appartement à Rouen. Je faisais mes études là-bas et je me réveille, je vois que j'ai des appels d'amis, j'en ai une douzaine et tout. Au début, je me suis dit, j'ai raté les histoires de gamins, enfin... des petites embrouilles et tout. Du coup, je suis partie me préparer parce que juste après, j'avais cours. J'ai reçu un message. Du coup, j'appelle une amie à moi, elle me répond. Je commence à dire « Allô ?» J'entends rien. Et puis d'un coup, j'entends qu'il commence à pleurer. Là, je comprends qu'il y a un problème. Elle me dit « Il faut que tu viennes. » Sauf que moi, j'étais à Rouen, j'étais loin. Donc, et du coup, j'ai appelé une autre amie. Elle me répond directement, j'entends au téléphone qu'il pleure. Je demande ce qui se passe. Elle non plus, elle ne veut pas me répondre. Elle me dit, je veux que tu restes calme. Et là, elle me dit qu'un ami à nous, j'étais proche de lui, elle m'annonce qu'il vient de mourir. Il a l'habitude de faire des accidents de scooter. Du coup, je me suis dit, c'est encore un accident de scooter. Enfin, c'est pas le premier que je perds et ça ne sera pas le dernier que je perds comme ça. Sur le coup, je pleure pas. Je demande juste qu'est-ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? Elle veut pas me répondre. Et jusqu'à ce qu'elle me dise ben, qu'il venait de mourir d'une balle dans la tête. On venait de le tuer, en fait, c'était un meurtre. Dans son hall de bâtiment. Sa mère, elle était au premier. On n'a rien entendu, je sais pas comment ça se fait. Et c'est d'autres amis à moi qui ont trouvé le corps, en fait. Sur le coup, il m'a fallu un peu de temps avant de comprendre tout ça. Et après, quand j'ai compris, là, j'ai commencé à pleurer, je savais plus quoi faire. Du coup, c'est la mère de ma copine qui a pris le téléphone et qui m'a dit de me calmer parce qu'en fait, j'étais en train de faire une crise d'angoisse. J'arrivais pas à parler, je tremblais. Du coup, je reprends mes esprits, j'appelle ma mère. Il devait être 6h30, du coup, je la réveille. En panique, elle me demande ce qu'il y a. Je commence à pleurer, elle comprend pas. Elle était déjà en train de prendre ses affaires pour venir me rejoindre à Rouen. Je lui ai dit « Non, c'est pas la peine, je vais venir ». Je me suis repris en main, j'ai pris mes affaires. Et à 9h30, 10h, j'étais déjà arrivée à l'Île-Saint-Denis. On a tout fait, en fait. On a accompagné sa mère à la morgue. Je crois que c'était le pire moment, vraiment. Je crois que je suis restée une demi-seconde dans la salle en le regardant. J'ai pas réussi à rester. Il y a eu des collègues pour l'argent, parce qu'on voulait aider sa mère, ses sœurs, sachant que sa mère, elle est toute seule avec... 6 enfants. Je faisais des collectes matin, midi, soir, jusqu'à 22h, je faisais des collectes, je rentrais pas chez moi. On a tout payé, sinon on a payé son cercueil, sinon on a tout fait, on a fait des tournois à son effigie. Dimanche prochain encore, il y a encore un tournoi parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, il aurait dit. C'est des tournois de foot, on se réunit parce qu'il aimait trop le foot. Il était pour Marseille, même si moi j'étais pour Paris. En fait, moi ce qui me pose un problème, c'est surtout la manière dont il est mort. Ça aurait été juste un accident. Mais là, le fait qu'il se soit pris une balle, en fait, j'arrive pas à l'accepter. Il est parti depuis le 9 mars et j'arrive pas. Je suis jamais partie le voir sur sa tombe, alors que c'est à 5 minutes de chez moi. J'arrive pas. Je sais pas, je suis énervée, je suis triste. Sur le coup, j'étais énervée contre moi d'être partie à Rouen faire mes études alors que j'aurais pu rester à Saint-Denis, j'aurais peut-être vécu d'autres choses avec lui. Du coup, ouais, j'en veux à lui, j'en veux à tout le monde. Un jeune qui se prend une balle dans la tête dans le 9-3, bon, je pense qu'on sait tous que c'est à cause d'histoire, bon, drogue, tout ça. Une histoire de vengeance aussi, parce que la personne qui a tiré, elle était en prison avec son frère, donc bon, on a vite fait le lien. C'est trop, c'est... je sais pas. À partir du 9 mars, je suis rentrée chez moi à Saint-Denis et après le 9 mars, je suis plus retournée en cours. Quand je vais rendre visite chez sa mère, je passe par le hall, il s'est fait tuer dans le hall, du coup. Pendant près de 2 semaines, je n'arrivais pas à rentrer chez lui, en fait. Parce que je me voyais, en fait, son corps, le trou dans sa tête, le sang qui coule. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas. Je sais pas comment ça peut encore arriver, qu'il n'y ait pas de suite, en fait. Que ça prenne autant de temps, son jugement, il est en 2022, 2023, enfin... Je trouve ça énorme, ça veut dire que jusqu'en 2022-2023, sa mère, elle pourra pas faire son deuil tranquillement. Enfin, c'est jamais fini. Quand tu penses que c'est fini, ben en fait, c'est pas fini. Parce que t'es reconvoqué, on te redemande de redécrire la scène. Les personnes qui l'ont tué, ben ils te menacent. C'est aussi pour ça que je suis pas rentrée, parce que les menaces et tout, j'avais peur que ça arrive à quelqu'un d'autre, en fait, de mon entourage. Du coup, je me voyais pas encore rater... Enfin, c'est bizarre de dire rater la mort de quelqu'un, mais je me voyais pas rentrer à Rouen pour continuer mes études comme si de rien n'était, alors qu'à Saint-Denis, ça allait pas, quoi. Bah, les menaces, c'est les personnes qui ont tiré, parce qu'ils étaient plusieurs. Il y en a qui sont en liberté, il y en a qui courent, il y en a qui sont en prison. Mais bon, en prison, on a des téléphones, on a tout. Donc même de prison, on peut faire des menaces. Enfin, c'est facile. C'est trop simple, je trouve. C'est trop simple. Et le jour de sa mort, le 9, il y a eu une marche. La personne qui l'a tué, ben, elle était dans la marche. Donc ça, c'est un culot, mais j'ai jamais vu ça. Du coup, il s'est fait encercler, enfin, c'est parti. Ils avaient prévu de tuer la personne qui l'a tué sur la place. Sauf que ça a pris trop de temps. Du coup, les policiers, ils ont eu le temps d'arriver. Il a été récupéré par la police et depuis, ben, il est en prison. Je sais que pour certains, tant qu'ils ne seront pas tués, en fait, l'histoire ne sera pas finie. Après, c'est un cercle parce qu'on tue ceux qui l'ont tué. Et du coup, on est en fait comme eux parce qu'on tue. C'est la seule chose à laquelle on pense, en fait. Venger, en fait. Moi-même, ça serait pour moi, j'aurais déjà tué, en fait. Pour moi, si demain je le croise, c'est pas grave, je finirai ma vie en prison, mais je l'aurais vengé au moins. C'était l'honorer, je sais pas, c'était... J'ai juste trouvé le coupable, Je sais pas ce que j'aurais pu faire moi-même. Hein. Mais en fait, c'était plus fort que moi. C'était vengeance avant tout.
J'habite à Aulnay-sous-Bois. Mon histoire, c'est l'histoire d'un rêve. J'ai 14 ans, je fais du football en ligue à Aulnay-sous-Bois et je suis plutôt bon à l'école, même si j'ai un nombre important de retards et que mon comportement, il laisse à désirer. Mon objectif, c'est de devenir footballeur professionnel et rien d'autre. Mes parents sont contre ça, parce que pour eux, c'est plutôt les études et rien d'autre. Je fais de mon mieux pour assister aux entraînements. Je suis prêt à tout pour jouer au football. À vrai dire, c'est ce qui me permet de m'évader, sortir un peu du quartier. Assez renfermé, je parle pas à beaucoup de gens. J'ai un groupe d'amis restreint. Les histoires d'amour, ça m'intéresse pas trop. Le football, pour moi, c'est une activité qui m'aide à lutter contre toutes les choses que je pourrais faire dans mon quartier. Avec mes amis. Voler, vendre des produits illicites, ou bien encore se battre avec d'autres quartiers ou autres. Les meilleurs moments pour moi sont ceux que je passe sur un terrain. Cette saison, nous avons été très performants. Et plusieurs joueurs de notre équipe sont suivis par des recruteurs de clubs professionnels. Et moi, je suis parmi ces joueurs-là. Alors ce soir, je rentre à la maison. Je suis enthousiaste, juste à l'idée de parler à mes parents. Parce que mon entraîneur, Yaya, il m'a dit qu'il y avait des clubs qui me voulaient dans leur centre de formation. D'après lui, il y avait Orléans, Strasbourg, Rennes et même un club d'Angleterre, Birmingham. C'était donc pour ça la leçon de morale que mon CPE au collège il m'avait créé dessus, après m'être fait exclure de cours. Parce que il m'a expliqué que ça pouvait influer sur mon avenir et tout. Moi, j'avais pas compris. Mais c'est parce qu'en fait, les clubs, quand ils s'intéressent beaucoup à vous, ils viennent pour prendre les résultats scolaires. Et quand ils viennent pour prendre les résultats scolaires, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils sont prêts pour vous faire une offre ou bien pour vous faire passer un test. Je rentre enfin à la maison, les yeux brillants, tellement l'émotion était forte. J'entame très rapidement la discussion avec mon père pour savoir quel club nous allons choisir. Plus la discussion avance et plus mon sourire disparaît. Pour Lulu Football, comme d'habitude, n'avait pas d'intérêt. Les études sont beaucoup plus importantes. Pour pas finir comme lui, quoi. Il est agent de sécurité. C'est donc formel. Je n'allais pas réaliser mon rêve. La tristesse, la haine, le dégoût ont pris le dessus sur moi. Plutôt dur dans l'âme, j'ai pas tendance à pleurer, mais cette fois-ci, je n'arrive pas à me contrôler. Le football, c'est fini pour moi. L'heure est venue de retourner au quartier. J'étais un peu dégoûté. Plus parce que je voyais des gens, j'étais plus fort que eux. Et par exemple, il y en a un qui joue à Toulouse maintenant. Je sais pas, ouais, c'est de la haine, ouais, un peu. Ça s'est passé quand j'étais en troisième. C'était du coup il y a 4 ans. Ouais. Et depuis, j'ai arrêté le foot. Et j'ai fait des études. J'ai fait des conneries. Et c'est tout.
Alors, je m'appelle Yacine, j'ai 18 ans et j'habite à Clichy-sous-Bois. Alors, je vais vous raconter un vieux souvenir de lorsque j'étais plus petit. Nous sommes en 2013, je suis chez moi, lorsque des amis m'appellent pour sortir dehors. Et comme il n'y avait rien à faire, c'était la galère, on décide de faire un petit tour au quartier pavillonnaire, au hameau, à Clichy-sous-Bois, pour voir s'il n'y a pas quelques vélos à prendre. Mais comme on n'a rien trouvé, on voit une fenêtre entrouverte au premier étage d'une maison, et donc on décide de grimper pour voir s'il n'y avait pas de l'argent ou des jeux. On était 4, un gars avec une béquille et 3 normales, dont moi. Le gars avec une béquille nous attend dehors, et les 3, on grimpe au premier étage, mais on trouve rien qu'un dentier, des cigarettes et des vêtements. Mais pas d'argent ni de jeu de Play 3, parce qu'on joue beaucoup à la Play 3. Comme on trouve rien, on décide de descendre, mais en descendant, je voulais pas sauter, je voulais atterrir au rebord du rez-de-chaussée. Et du coup, j'ai tapé la fenêtre du rez-de-chaussée avec mon pied. Le monsieur à l'intérieur, il nous a attendus et il est sorti pour nous courser. Avec l'adrénaline qui monte, mon ami avec une béquille court plus vite que l'homme qui nous court après. En courant, on entend des sirènes qui nous a énormément stressés, et donc nous retournons dans notre bâtiment chez mon ami pour nous cacher et jouer à la Play 3 en riant de ce qui vient de se passer. Voilà. C'était il y a 4-5 ans. Des fois on rigole dessus. Ouais, on me dit ah, tu te rappelles quand? On refait plus ça maintenant. Là, maintenant je suis à l'école, je travaille. C'est fini ça. C'est les petits qui font ça. Maintenant j'ai la flemme de faire ça un peu. Mes copains, il y en a un qui est devenu qui fait rien, l'autre qui travaille en intérim et l'autre qui travaille dans les chantiers. Voilà.
France Culture, les pieds sur terre.
Tiroir.
Parce que oui, quand même, c'est...
L'armoire.
Bah, c'est ma mère.
Et en dessous du... C'est l'histoire d'un rêve.
Ouais. Elle me manquait.
On commence ?
Alors, je m'appelle Jenaba, j'ai 18 ans et j'habite à Bobigny. Je vais vous raconter une histoire qui est une minuscule partie de mon enfance. Ce que je tiens à préciser tout d'abord, c'est qu'en fait, les autres, ils me voient plutôt comme une personne forte, qui rigole tout le temps, de tout et de rien, qui a beaucoup confiance en elle. J'ai des souvenirs en fait qui tentent de remonter à la surface, mais je me rends compte que j'avais enfui au plus profond de moi et dont je ne parle jamais. Alors que quand la prof de com, elle me demande d'écrire une histoire personnelle, bah, je fais tout de suite référence à Aubervilliers. Aubervilliers, en fait, c'est une ville où j'ai vécu jusqu'à mes 12 ans. J'ai vécu dans un quartier sensible qui s'appelle Le Landy, à côté du canal. Dans ce quartier, en fait, où il y a la misère qui court à peu près toutes les rues, j'habite avec mes parents dans un petit appartement avec mes frères et sœurs. Il n'y avait pas vraiment de pièces de vie. Du coup, on était vraiment H24 ensemble. Et lorsque, en fait, ma mère, elle a mis au monde ma petite sœur, Meymouna, c'est un petit cœur, franchement, rempli de joie. Malheureusement, elle n'a pas toujours vécu avec nous parce que la vie, elle n'a pas fait de cadeaux. Elle est entrée dans nos vies le 7 septembre 2005 à l'hôpital Robert Debré. J'étais très contente d'apprendre que j'avais une nouvelle petite sœur. Mais ma joie, elle a été de courte durée parce que j'apprends que je ne pouvais pas la voir de sitôt. J'apprends qu'elle est née en fait très prématurément et qu'elle est atteinte d'un handicap très grave qui l'empêche de vivre avec nous. Elle vivait dans un centre médical et du coup, elle vivait très loin de nous et c'était très compliqué parce que il y avait au moins 1h30, voire 2h de route. Et ma mère, elle faisait l'aller-retour tous les jours. En fait, on était avec la voisine qui s'occupait de nous, qui nous faisait la douche, qui nous faisait à manger. Du coup, en fait, je n'ai pas vraiment grandi avec ma mère. Du coup, je n'ai jamais vraiment été proche de ma mère. Je pense que ça explique la relation que j'ai aujourd'hui avec elle. En fait, c'est depuis que j'ai déménagé, bah, ça a vraiment été, entre guillemets, une délivrance. Enfin, on vit dans un appartement plus grand qui est adapté pour la petite. Même si, en fait, c'est compliqué au quotidien parce qu'elle est suivie par des spécialistes en tout genre, bah, finalement, bah, on est content d'en être sorti plus fort de cette épreuve tous ensemble.
Je m'appelle Lise Marie, j'ai 18 ans et j'habite à Rosny-sous-Bois. Je vais vous raconter l'histoire du décès de ma mère et les années qui ont suivi. J'ai 9 ans, c'était un vendredi, je suis prête à partir pour l'école. Mon père m'attend, mais avant de le rejoindre, je me prends la tête avec ma mère pour une histoire débile, le choix de comment je vais m'habiller. La journée se déroule normalement. J'attends que mon père vienne me chercher en voiture. Mais la gardienne me dit qu'il viendra avec beaucoup de retard, sans me préciser pourquoi. Après 2 heures d'attente dans la loge de la gardienne, à jouer avec mes cartes Pokémon pour faire passer le temps, je vois mon père arriver avec ma grande sœur. Événement, ma sœur habite sur Paris et ne viendrait jamais me chercher à l'école. À moins que quelque chose d'important soit arrivé. Mon père s'approche de moi et me dit « Ta mère est morte ». Puis il commence à pleurer. Moi, je croyais que c'était une blague. Alors j'ai dit « Oui, je m'en doutais, c'est sûr que ça allait lui arriver ». Car ma mère avait beaucoup de problèmes de santé et était en arrêt maladie depuis un mois, je crois. Mon père me dit que ce week-end, je vais dormir chez ma sœur, car elle a besoin d'être seule et qu'il reste des pompiers et la police chez moi. Alors je suis montée dans la voiture de ma sœur. Puis d'un coup, je réalise les mots que mon père vient de me dire. Et là, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Ou que, avant ces mots-là, j'étais sur une étoile et que tout allait bien. Puis d'un coup, cette étoile disparaît et je vois une énorme chute libre. Et je finis par atterrir sur la terre avec une douleur inexplicable. Je commence à fondre en larmes pendant tout le trajet jusqu'à chez elle. Je crois même que j'ai vidé la boîte de mouchoirs de sa voiture. Après ces jours-là, ma vie est passée du paradis à l'enfer. Quand je me levais le matin, je ne voyais que la journée et pas plus loin. Quand je rentrais chez moi, je voyais ma mère dans la rue. Au même moment, j'espérais que je sonnais chez moi, que ma mère ouvre la porte et me dise que c'était qu'une blague, mais ce n'est jamais arrivé. Mais j'y ai cru jusqu'à l'enterrement de ma mère. Ce jour-là, quand je l'ai vue dans son cercueil, j'ai réalisé que ma vie avait perdu son goût, son sens. Je n'avais plus de quête à atteindre. J'avais l'impression de vivre une vie sans aucune autre vraie émotion que la douleur infinie, la peine et le mal de soi. Je passais mes nuits à pleurer, à me rappeler des souvenirs avec elle. Je vivais aussi avec le poids des regrets, car je m'en voulais terriblement. Je crois que je m'en veux encore de m'être pris la tête pour une histoire stupide le matin ou de son décès. Parce que j'aurais voulu lui dire que je l'aime. J'ai peur qu'elle soit morte en m'en foulant de lui avoir mal parlé. Ce regret me hantera toute ma vie, je pense. Pendant environ 2 ans, peut-être plus, je me sentais mal dans ma tête. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Pour essayer de me sortir de ce trou profond, je me suis raccrochée à la musique, à mes amis et un peu à ma famille. J'ai vécu entre 2 à 3 ans très compliqués, puis j'ai réussi à sortir petit à petit de ce trou. Et je me suis créé une carapace. Mon père allait tous les ans à la Toussaint pour nettoyer sa tombe et mettre des fleurs. Je crois que j'y suis allée 2 fois avec lui. Puis après, je n'ai plus eu la force. Car à chaque fois que je vois sa tombe, j'ai l'impression de réouvrir cette cicatrice. Il y a 2 ans, j'y suis retournée avec ma meilleure amie, qui n'a malheureusement pas connu ma mère. Ça m'a fait bizarre, mais pas aussi mal qu'autrefois. Puis cette année, j'y suis retournée toute seule. J'ai parlé sur sa tombe, mais ça m'a fait beaucoup de bien.
Je m'appelle Marco Tano, j'ai 18 ans et j'habite à Meaux. Je vais parler de mon premier amour. C'était la première fois que je partais aux Philippines avec ma mère. C'est le pays natal de ma mère et c'est ma deuxième origine. C'est magnifique, il y a plusieurs montagnes. La mer est bleu turquoise et le sable blanc. On est parti la première fois à la plage avec ma famille et une autre famille proche de la mienne. Parce qu'il y a 2 maisons collées aux Philippines, celle de ma mère et celle de sa meilleure amie. Et il y avait une fille qui était magnifique, c'était la première fois que je la voyais. C'était la fille de la meilleure amie à ma mère. Elle s'appelait Sherline, elle avait 15 ans, comme moi. Elle a une taille moyenne, avec des beaux yeux clairs, elle était brune et claire de peau. C'est mon style de fille. J'aime les filles avec un beau visage. Et la barrière de la langue, elle me gênait un peu parce que je parlais pas complètement la langue. C'est le tagalog, la langue nationale de là-bas. Alors, la première fois que je l'ai vue, c'était dur de lui parler et j'étais timide. J'ai demandé à ma mère de m'aider parce qu'elle parlait cette langue et pas moi. Alors ma mère est partie lui parler à ma place. Elle lui a demandé que je la trouvais belle et que je voulais lui parler. Alors elle est venue me voir parce qu'elle, elle n'était pas timide et moi si. Elle a commencé à me parler mais je ne comprenais pas tout à fait. Elle me disait que j'étais très beau. Là-bas, ils mélangent beaucoup l'anglais et l'espagnol. Et pour dire que quelqu'un est beau, ils disent Poggi. Elle m'a dit Marco Poggi. Et que c'était la première fois qu'elle voyait un étranger venir dans ce village parce que ma mère, elle n'habite pas à la capitale. Elle habite dans un village éloigné de la capitale, qui s'appelle Big Dig. Et elle venait souvent à la maison pour parler. Elle essayait d'apprendre à me connaître, et moi aussi. On faisait des signes. À la fin, on s'est dit qu'on s'aimait. Mais je pense qu'on est allé un peu trop vite, parce qu'on était des enfants aussi. On s'est pas embrassés. Je le regrette un peu. Parce que c'était mon premier amour, j'avais jamais vu des filles comme ça. Bah, la fin de mes vacances arrive, c'est le moment de se dire au revoir. Elle nous a accompagnés jusqu'à l'aéroport. Et on s'est dit au revoir, elle pleurait, et moi non. Parce que je monte pas beaucoup mes émotions. Bah, dans sa langue, elle m'a dit qu'elle m'aimait. En Philippines, c'est ma Alkita. Bah, j'ai répété la même chose. J'étais un peu triste dans l'avion parce que j'avais passé de bonnes vacances et j'avais rencontré une très belle fille. Peut-être que c'était la femme de ma vie. Et peut-être que si je vivais là-bas, peut-être qu'on serait toujours ensemble. J'y suis retourné il y a 4 mois. On s'est revus. On est toujours voisins. Et j'ai fêté mon bac là-bas. Elle est venue à la maison parce qu'elle était contente de me revoir. On a parlé et je maîtrisais mieux la langue parce que je me suis entraîné. Alors on a pu se parler, échanger. Et pour elle, elle pensait toujours que j'étais avec elle dans ma tête, qu'en France j'avais rien fait, que j'étais toujours célibataire. et que on était toujours ensemble. Alors que moi, non. Bon, pour moi, on s'est quitté de Philippines, je suis revenu ici et la vie, elle a continué. Alors je lui ai dit. Et elle était triste de savoir que j'avais d'autres copines. Alors elle est partie en pleurant. Je suis allé la voir et je lui ai dit de ne pas pleurer, que j'étais ici pendant un mois encore et qu'on allait voir si ça a marché, mais ça n'a pas marché. Parce qu'on est très différents. Elle est plus calme que moi et moi, je ne suis pas calme. Alors c'est compliqué. Après, à la fin de mon voyage d'un mois, elle n'est pas venue me dire au revoir parce qu'elle était énervée. Ça m'a beaucoup fait rire. Je n'ai pas de regrets parce que c'était quand j'étais petit, à mes 15 ans, et que maintenant j'ai grandi et que bah c'est plus comme avant. On est devenus différents. Je la trouve moins belle qu'avant. Bah, elle me trouvait toujours si beau. Je suis devenu un homme.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et L'Atelier, un reportage de Pauline Mocor, réalisé par Clémence Grosse. Merci évidemment à Joséphine Lebar, qui est l'enseignante de ce cours de communication à l'IUT de Bobigny, où cet atelier a eu lieu. Merci à Lise Marie, à Geneva, à Marco, à Stéphane, à Yacine, à ceux qui ont préféré rester anonymes, à celles qui ont préféré rester anonymes également, et à tous les étudiants qui ont raconté et écrit leur histoire. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Céline Autin, c'est notre stagiaire.
Quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive, je te prendrai doucement et sans contrainte, de quoi tu perds alors, n'aie nulle crainte, je t'en prie, ne sois pas farouche. Vient l'eau à la bouche.
N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent nombreux.